soir, IDFM Radio, émission Toute la culture que j'aime. Et bien aujourd'hui, je vais parler exposition. Ça va être très intéressant, alors restez avec nous. Vous allez découvrir les coulisses des théâtres des Hauts-de-Seine grâce à une petite exposition magnifique sur des archives, justement, les années 60, Patrice Chéreau, Nanterre-Amandier, c'est incroyable. Et ensuite, j'irai du côté du centre Pompidou, musée d'art moderne, avec Paris Noir, une exposition incroyable jusqu'à lundi soir sur tous les artistes de culture africaine, américaine, caribéenne, dans une magnifique exposition immense à Pompidou. Restez avec nous.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today, yeah. Father, Father, we don't need to escalate. War's not the answer, for only love can conquer. You know we've got to find a way to bring some loving. Oh, yeah, yeah. Picket lights, picket signs. Punish me with brutality. Talk to me, honey, so you can see. Oh, what's going on? What's going on? Hey, what's going on? Tell me what's going on. Ooh. Come on, man.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Nous venons d'entendre What's Going On de Marvin Gaye et je reçois donc Juliette Gallois. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Bonsoir madame Gallois. Vous êtes donc responsable du service des fonds aux archives départementales des Hauts-de-Seine. Et nous allons parler d'une formidable petite exposition, mais vraiment cachée, mais à découvrir, qui s'intitule « Dans les coulisses des théâtres des Hauts-de-Seine ». C'est donc aux archives de Nanterre jusqu'au 14 novembre. Je l'ai découverte moi-même il y a une semaine et j'ai été subjuguée. Alors, la période est bien précise, hein, madame Gallois. C'est tous les fonds finalement d'archives de certains théâtres. Hein, on expliquera après à nos auditeurs la période courant de 1963 à 2015, hein, donc sont mis en lumière bien évidemment les deux centres dramatiques nationaux, Théâtre des Amandiers à Nanterre, fameux Théâtre de Gennevilliers, également la scène nationale de Malakoff, hein, le Théâtre 71. Alors c'est une période foisonnante, je dirais, de décentralisation du théâtre, avec l'arrivée bien évidemment de Patrice Chéreau à Nanterre, de Bernard Sobel à Gennevilliers. Alors, quels sont les points importants, je dirais, de cette période des années 60 à Nanterre? Que se passe-t-il finalement? Il n'y a pas encore de théâtre.
Eh bien, en fait, en 1965 que la municipalité de Nanterre décide de mettre un accent particulier sur la fête de la Rosière, qui est organisée tous les ans et qui met en avant une jeune fille vertueuse de la ville. Et en 1965, donc, le maire veut également célébrer le fait que la commune soit communiste depuis 30 ans, et donc décide de faire un événement particulier et demande à Pierre Debauche, qui est un metteur en scène et qui dirige une compagnie de théâtre, de créer un événement. Et donc Pierre Debauche crée un premier festival sous chapiteau à Nanterre en 1965. Donc ce premier festival sous chapiteau qui se tient sur la côte dite des Amandiers à Nanterre, voilà, d'où le nom du théâtre Nanterre Amandiers, voilà le nom officiel qu'il a pris après. Et voilà, donc ce premier festival accueille aussi bien des pièces de théâtre que des concerts et voilà différents événements autour voilà de sous ce chapiteau à Nanterre.
Oui, oui, oui. Alors, il est donc Pierre Debauche est le fondateur hein, du théâtre des Amandiers.
Tout à fait, oui, oui. C'est Pierre Debauche qui prend la direction du théâtre des Amandiers, auquel vient s'ajouter un peu après la Maison de la Culture de Nanterre, où les deux établissements ne forment un peu voilà qu'un seul ensemble. La Maison de la Culture de Nanterre disparaît et enfin voilà ça s'arrête et c'est le théâtre des Nanterre Amandiers qui prend le devant et voilà il est toujours en fait il est toujours situé sur le site de préfiguration de la Maison de la Culture de Nanterre qui se trouve rue Pablo Picasso.
Oui, alors à travers cette exposition, on découvre des photos, hein, des plans, des dessins. Il y a encore certains programmes de cette période, justement du début des Amandiers, du début du théâtre de Gennevilliers, des costumes, des affiches. Et il y a également alors toute l'histoire de Gennevilliers. Vous pouvez nous en parler un peu? Puisque je crois que c'est Jean Villard qui demande à ce que Bernard Sobel vienne en région parisienne.
Alors Bernard Sobel, je pense, vient déjà de région parisienne. Enfin, il me semble qu'il est né à Paris. Mais effectivement, c'est Jean Villard qui doit souffler son nom à l'oreille du maire de Gennevilliers. Alors il faut savoir aussi que Bernard Sobel dirigeait déjà une troupe de théâtre. C'était l'ensemble théâtral de Gennevilliers. Donc voilà, il était déjà un peu basé, même beaucoup basé à Gennevilliers. Il avait fait quelques mises en scène dès 1964 de mémoire. C'était Tanker Nebraska qui est une des premières mises en scène de Bernard Sobel à Gennevilliers. Mais là aussi, quasiment simultanément avec Nanterre, voilà, la commune de Gennevilliers décide de, là aussi de mettre en avant l'activité théâtrale et culturelle en demandant à Bernard Sobel de créer un premier festival dont on expose également l'affiche dans notre exposition. Et donc ce premier festival date de 1966. Et ce qui est intéressant, c'est en plus du lien entre Jean Villard et Bernard Sobel, c'est le lien entre Bernard Sobel et Patrice Chéreau, puisqu'on voit sur cette affiche que en 1966, Bernard Sobel fait appel à Patrice Chéreau pour présenter sans doute une de ses premières mises en scène post-lycée Louis le Grand de Paris. C'est l'affaire de la rue Lourcine. Donc Patrice Chéreau, en 66, il doit avoir 21-22 ans. Il emmène avec lui Jean-Pierre Vincent qui joue un rôle dans la pièce. Et voilà, il faut savoir qu'après, au théâtre des Amandiers, eh bien, voilà, après Pierre Debauche et quelques directeurs, mais voilà, le principe, en 82, c'est Patrice Chéreau qui arrive. Et quand il part, c'est Jean-Pierre Vincent qui prend sa suite à la direction. Donc voilà, il y a tout un compagnonnage qui est présenté dans l'exposition. Dans les fusions. Et pour revenir à votre question, par rapport au théâtre de Gennevilliers, oui, c'est quand même Bernard Sobel qui a donc marqué, non pas les esprits, mais voilà, le lieu, puisqu'il est resté une quarantaine d'années en poste à la direction du théâtre.
Oui, donc formidable croisement, justement on y croise ces grandes figures du théâtre, hein, je disais tout à l'heure, à travers des documents d'archives, des affiches, des plans, des photos. Autre grande figure qui est venue dans les Hauts-de-Seine, c'est Jean Villard, qui arrive à Suresnes dans les années 60, hein, puisqu'il est déjà directeur de Chaillot, hein, du TNP, mais je crois qu'il ne peut pas pendant un certain moment investir les lieux, et donc il vient monter ses spectacles à Suresnes.
Voilà, il choisit, c'est l'ONU qui tient sa première session à Chaillot, donc oui. Effectivement il ne peut pas installer sa troupe sur le site, et donc les premiers temps il va dans différents théâtres, dont le théâtre de Suresnes. C'est pour ça que voilà que le théâtre de Suresnes s'appelle le théâtre Jean Villard. Donc là on a très peu, c'est que nous n'avons pas d'archives sur le théâtre de Suresnes, puisque c'est un théâtre municipal. Donc les archives du théâtre de Suresnes sont conservées aux archives municipales de la ville, et c'est les archives municipales qui nous ont prêté quelques documents justement pour qu'on puisse aborder la présence voilà, de sa présence dans le territoire des Hauts-de-Seine.
Oui. D'ailleurs, les fonds de vos archives ne couvrent pas finalement la période avant 62. Hein. Je pense notamment à la troupe de Jean Villard qui est venue également. On parlait tout à l'heure de Suresnes, mais qui est venue à Gennevilliers en 52. Hein, avec le site de Corneille, voilà, ils ont présenté également de Brecht, Mère Courage, voilà. Votre fonds donc ne couvre pas cette période hein, avant 62. Hein.
Ben en fait, on a collecté, voilà, une des principales missions des archives départementales, c'est de collecter les documents avant de les classer, de les communiquer, et donc on a collecté les archives qui se trouvaient au sein du théâtre. De Gennevilliers, et donc où il n'y avait pas d'informations sur le passage de la troupe de Jean Villard à Gennevilliers. Les archives sont peut-être aux archives municipales de Gennevilliers. Elles peuvent être également avoir été versées dans une autre institution. Voilà, je ne peux pas vous dire où sont les archives de la compagnie Jean Villard. Mais
tout à fait. Alors,
elles sont pas chez nous.
En tout cas, dans cette exposition, moi, j'ai repéré notamment, vous savez, tous les logos, hein, les fameux. Il y a beaucoup de choses sur le design, hein, les affiches hein, des années 60, le logo du théâtre de Gennevilliers.
Oui, oui, oui. Et voilà, effectivement, notre exposition ne vise pas à retracer l'histoire des théâtres, mais voilà, mais à l'aborder par le prisme de la création. Et dans cette création, il y a aussi la partie communication avec les affiches. Donc on expose quelques maquettes d'affiches du théâtre de Gennevilliers, et également donc l'évolution des logos, où on voit que le premier logo de l'ensemble théâtral de Gennevilliers était assez Art Nouveau tout en rondeur, et que dès l'année suivante, en 1967, même 66, parce qu'en 1966, l'affiche du premier festival présente un loco beaucoup plus géométrique et cubique que qui restait très très longtemps, quasiment toute la période de Bernard Sobel. Et nous conservons une maquette de ce logo un peu cubique.
Oui, je pense également au croquis de 1967 sur la pièce première de cavalerie, hein, une recherche oui. pour costume.
Tout à fait, tout à fait. Nous possédons quelques rares documents sur les costumes. Donc on expose, grosso modo, on expose les deux qui sont conservés. Un calque de la pièce première de cavalerie, donc jouée au théâtre de Gennevilliers, et la personne dont on ignore le nom, qui a fait le costumier, qui a fait les dessins, s'est inspirée d'articles d'un journal en cyrillique, puisque voilà, c'est écrit en cyrillique, on n'a pas, c'est juste la page qui est arrachée, et qui servait de documentation pour illustrer, enfin pour dessiner et pour donner les matériaux des costumes. C'est-à-dire que même, voilà, on sait que les gants sont en mouton, que je ne sais plus quel chapeau, et voilà, il y a toutes les matières qui sont données sur ce document. Et le second que l'on conserve, c'est au théâtre Nanterre-Amandier, c'est pour la pièce Ithac. C'est un document qui est très long, puisque déroulé, il fait 3,76 m, et qui comporte de multiples petits croquis de personnages avec les costumes. Et là aussi, grâce auprès du théâtre Nanterre-Amandier, nous avons pu emprunter le costume qui figure sur un de ses dessins, et nous avons exposé aussi une photographie en lien avec ce costume porté par l'actrice sur scène.
Et c'est quel costume ?
C'est Ithac, dans la pièce Ithac.
C'est Ithac, c'est ça, de Jean-Louis Martinelli, dans les années 2010. Hein.
C'est ça, oui.
Oui. Alors, il y a également des costumes emblématiques de Nanterre-Amandier. Je pense à la robe portée par Jane Birkin.
Tout à fait. C'est la robe qui fait l'ouverture quasiment de l'exposition. Dans la fosse suivante, c'est une pièce mise en scène par Patrice Chéreau, avec Michel Piccoli, et voilà, c'est une robe qui on voit les essais de costumes avec Jane Birkin, voilà, donc ça fait partie des pièces qui ont été prêtées par le théâtre Nanterre-Amandier, avec le costume de Daniel Auteuil dans Les Chauves-Brûlées d'Escapin, ou celui d'Emmanuel Béard dans une pièce de Musset.
Oui, puis
plus récemment, enfin le costume le plus récent qu'on ait eu en prêt, mais qu'on va devoir rendre prochainement, c'est le costume de Michel Escaut dans Richard II, qui a été mis en scène en 2000, voilà, très récemment, en 2022-2023 au théâtre Nanterre-Amandier.
Oui, alors il y a la fameuse photo également avec Jane Birkin, Michel Piccoli et Didier Sandre. Hein.
Tout à fait.
De 1985 à peu près, hein, la photo suivante, voilà, on en parlait tout à l'heure.
Tout à fait, c'était pendant les répétitions de la pièce, parce que l'exposition en fait aborde différentes thématiques de la création. Nous présentons le travail un petit peu sur les textes, notamment avec le fonds privé de Marcel Tassincourt, parce que nous avons très peu de documents de ce travail justement sur le texte dans les fonds d'archives publiques des théâtres. Nous parlons du choix des acteurs. Donc là aussi, je ne sais pas si vous avez pu voir une lettre assez intéressante de Jean-Pierre Vincent à Emmanuel Béard, qui veut absolument qu'elle joue un rôle dans une pièce de Musset, dans son grand projet de pièce de Musset, mais que il aimerait que chacun ait la même somme d'argent. Donc c'était 25 000 francs par mois voilà, à l'époque. Et donc voilà, il dit que c'est honnête pour de jeunes comédiens, mais que ça peut poser problème pour des comédiens plus renommés, voilà, comme Emmanuel Béard. Mais alors je vais pas mettre le suspense plus longtemps, parce qu'on a une photo d'Emmanuel Béard dans le costume. Donc ça veut dire que là, voilà, on n'a pas la réponse, mais elle a dû accepter la proposition puisqu'elle est exposée. Et je me rappelle plus. Ah oui. Et donc voilà, on aborde toutes ces thématiques, les décors, les costumes, la musique, et donc les répétitions. Avec pas mal de photographies, notamment le travail à la table. On voit une photo de Patrice Chéreau et une seconde de Bernard Sobel. Où, voilà, au milieu des acteurs, le travail à la table, c'est vraiment le travail en amont de préparation du jeu des acteurs, voilà, de la façon dont le metteur en scène voit, voit sa pièce.
Oui, alors j'ai noté notamment ce document passionnant, un petit tableau avec le nombre de répliques des comédiens et du salaire en conséquence.
Tout à fait, oui. C'est un petit tableau, donc ça c'est au théâtre de Gennevilliers, c'est pour, de mémoire, c'est Têtes rondes et Têtes pointues. Et ça indique pour chaque acteur, c'est comme un petit un mot croisé. Enfin, il y a des cases noires un peu partout pour savoir à quel moment l'acteur est sur scène, combien de lignes il a à la fin. Et effectivement, ce nombre de lignes, donc le lignage, doit aider au calcul du cachet. Et on voit, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en dessous de 5, eh bien, il y a encore des rôles qui ont moins de 5 lignes, mais eux, ils n'apparaissent nulle part. Et donc, on m'a dit que en dessous de 5 lignes, c'est pas qu'on est plus acteur, voilà, on est quasiment plus acteur, mais on devient silhouette.
Ah oui,
en dessous de 5 lignes, ils sont pas mentionnés dans ce tableau. Ils sont présents, c'est-à-dire que on sait qu'il y a des fermiers, je sais plus quel rôle encore, mais voilà, on ne sait pas à quel moment de la pièce ils apparaissent et on ne sait pas combien de lignes ils ont, mais en tout cas ils en ont moins que 5.
Oui.
Donc ils ne sont pas peut-être, alors je sais pas s'ils sont pas rémunérés, mais en tout cas ils n'ont pas le même système de rémunération que les acteurs qui ont plus de 5 lignes de texte à dire.
Voilà, je rappelle qu'on est dans les années 70-80 hein, avec ce système de.
Oui. On est même en 1970.
Avec ce système de salariat. Merci beaucoup, Juliette. Alors, quand même, autre anecdote très intéressante par rapport à tout ce qui se passe dans les théâtres des Hauts-de-Seine. Chéreau, quand même, Patrice Chéreau et Jean-Pierre Vincent se sont rencontrés, je crois, dans le club théâtre du lycée Louis le Grand, finalement.
Tout à fait. Ils étaient élèves tous les deux au lycée Louis le Grand.
Oui.
Donc, ils se sont connus là-bas. Ils ont été au club théâtre là-bas avec d'autres grands noms du théâtre et du cinéma qui se sont connus alors les noms m'échappent mais qui se sont connus au lycée Louis le Grand et voilà et cette amitié qui a dû naître là-bas s'est poursuivie puisqu'ils ont travaillé ensemble donc je vous ai dit au premier festival de Gennevilliers et surtout après. Sans doute que Patrice Chéreau, quand il est parti, il a dit à Jean-Pierre Vincent, bah tiens, le poste se libère, tu peux prendre ma suite. Ça se passe pas comme ça parce qu'ils sont nommés. Mais voilà, il a peut-être il y a une suite logique. Ils se sont connus adolescents et voilà, ils se sont succédés à la direction du théâtre Panthéra-Mandier.
Oui. Mm-hmm. Autre fait marquant, le fameux club d'art dramatique du lycée Pasteur de Neuilly, c'était un peu les débuts du Splendide. Hein. Gérard Jugnot, Michel Blanc étaient en terminale et ils sont chargés de recevoir Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud. Voilà, et de là va naître le Splendide, c'est ça?
Alors c'est presque ça, oui. Effectivement, donc c'est au lycée Pasteur qu'ils ont fait leurs études. Le lycée Pasteur avait un club théâtre assez bien, voilà, très très, très développé. Ils ont fait leur première mise en scène. Hein, on expose un livret d'une pièce qui s'appelle La concierge est tombée dans l'escalier, qui a été jouée au lycée Pasteur en 1970. Et donc c'est une pièce qui a été mise en scène par Michel Blanc. Et qui est joué par Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Christian Clavier et Michel Blanc. En 1969 que le club théâtre décide d'inviter pour une conférence Jean-Louis Barrault. Donc il vient. Alors d'abord, Jean-Louis Barrault veut s'assurer du sérieux de l'opération, c'est-à-dire qu'il ne va pas se déplacer si c'est pour avoir une salle vide ou voilà. Donc voilà. Donc il s'assure du sérieux de l'opération. S'étant assuré de ce sérieux, il vient en compagnie de son épouse Madeleine Renaud. Ils font une conférence, une présentation, voilà, de leur activité, de leur métier, et c'est vrai nous exposons le document préparatoire à cette présentation où on voit que effectivement Michel Blanc est chargé d'aller acheter les fleurs, que Gérard Jugnot est chargé de faire l'accueil, que Michel Blanc est chargé de faire le texte de présentation. Alors il y a d'autres noms du club théâtre, il y a des amis à eux, voilà, du club théâtre qui aussi avaient un rôle à jouer dans cette manifestation, cet événement, mais je sais pas, on a ces noms qui sont un peu moins connus, donc voilà, donc, on ne signale que l'équipe du Splendide qui allait devenir une splendide, qui s'est connue sur les bancs du lycée Pasteur.
Tout à fait. On voit bien que les Hauts-de-Seine, voilà, sont riches en histoire théâtrale. L'histoire remonte à même bien avant 1960, mais vraiment, vous couvrez cette période de 1960 à 2015. C'est passionnant. Un mot quand même sur la reconstruction du théâtre de Nanterre-Amandier. La réouverture est prévue pour quand, Juliette?
Alors, je parle en leur nom, mais enfin, non, je ne parle pas en leur nom.
L'automne.
Mais normalement, la saison prochaine sera dans le nouveau.
Nouveau bâtiment. Oui. Du théâtre des Amandiers. Je précise que le théâtre des Amandiers a toujours, bien évidemment, une programmation dans des bâtiments éphémères.
Jusqu'à la semaine dernière, puisque la dernière pièce c'était l'histoire du Cid. Qui a été joué dans le théâtre éphémère, et là ils sont en train malheureusement de le démonter, toute l'installation qui avait été mise pour accueillir le public, pour pouvoir intégrer les nouveaux locaux durant l'été.
Très bien, merci beaucoup.
Et je voulais quand même préciser que nous étions ouverts, faut quand même le dire, que vos auditeurs ne viennent pas le week-end, parce que nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Très important.
L'exposition est gratuite.
Oui.
C'est gratuit. Et pour ceux qui voudraient venir le week-end, je les invite à venir le week-end des Journées du Patrimoine, donc les 20 et 21 septembre, où nous serons ouverts les deux après-midi, le samedi et le dimanche.
Très bien. Donc sinon,
j'ai pas les horaires en tête, mais en allant sur le site, vous pourrez trouver toutes les informations à ce moment-là.
Très bien. Sinon, du lundi au vendredi, 9h-18h, c'est à Nanterre, aux Archives, 137 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie. Merci beaucoup, Juliette Gallois. On vous souhaite plein de visiteurs. Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous.
On écoute tout de suite Ray Charles, Can't Stop Loving You.
I've made up my mind to live in memories of the lonesome time.
I can't stop wanting you.
It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday.
Dreams of yesterday.
Those happy hours that we once knew, though long ago, it still makes me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. So I'll just live my life in dreams of yesterday's.
Those happy hours.
Those happy hours.
Still make me blue.
said I made up my mind to live in memories of the lonesome time. Sing the song, children.
I can't stop wanting you.
It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday.
Oh, yes.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre Can't Stop Loving You de Ray Charles. Et je reçois Madame Eva Barois de Cavel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc commissaire associé conservateur au Centre Pompidou, Musée National d'Art Moderne de Paris. Et nous allons parler de l'exposition Paris Noir qui se termine lundi. Donc, chers auditeurs, voilà, vous n'avez plus que 3 jours pour aller découvrir ce foisonnement de d'œuvres, de cultures, de mélange. C'est extraordinaire. Surtout, on en parle déjà, que c'est, je crois, Madame Barois de Cavel, la dernière exposition au Centre Pompidou avant fermeture, hein, c'est bien ça?
Alors, ce n'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Sont actuellement dans les murs du Centre Pompidou, donc effectivement Paris Noir, mais aussi une exposition monographique dédiée à l'artiste Wolfgang Tillmans. Voilà, et cette exposition-là termine fin septembre avec la fermeture, la métamorphose en tout cas, du musée. Voilà.
D'accord, très bien. Alors, cette exposition Paris Noir, on en a beaucoup parlé partout hein, dans les médias, alors présente 150 artistes originaire d'Afrique, des Amériques, des Caraïbes. Et la particularité, c'est que, eh bien, ces artistes ont vécu, ou en tout cas sont passés pour un certain temps à Paris, entre 1950 et 2000. Alors, première question, alors ça vous a pris des années, hein, je pense, déjà, pour regrouper toutes ces œuvres, artistes souvent méconnus d'ailleurs. On appelle Paris Noir. Est-ce qu'on peut parler d'artistes afrodescendants ou noirs? Quel est le terme exact qu'il faut utiliser?
Alors justement, ce sont des situations différentes sur cette chronologie hein, des années 50 aux années 90. Dans les années 50, sont effectivement des présences de différentes communautés à Paris pour différentes raisons historiques. Par exemple, la présence des Africains américains s'explique par des bourses qui étaient allouées notamment aux vétérans de guerre, les bourses du G.I. Bill, ce qui explique qu'on avait un contingent d'artistes africains américains présents dans la capitale dans les années 50. Et quand on s'achemine vers les années 90, la situation est différente et on arrive effectivement vers une France et une scène donc artistique et créative noire à Paris qui là qu'on pourrait qualifier d'afro descendante. Mais précisément, l'exposition raconte ce processus.
Oui. Alors, vous avez choisi, je dirais, comme thématique principale la période peut-être post... Est-ce qu'on peut dire ça post-coloniale ou esthétique? Enfin, quel est le but, finalement, pour nos auditeurs? Est-ce qu'ils se disent, je vais découvrir des artistes d'origine africaine ou américaine ou caribéenne? Quel est le lien commun? Est-ce que ces
artistes... Alors, le but de l'exposition, c'est de travailler une histoire que le musée n'a en partie pas travaillé dans ses collections permanentes pour différentes raisons. C'est vraiment aussi une réponse à l'histoire institutionnelle du musée, c'est-à-dire que Paris, on le sait, a été cette capitale artistique des modernités, des transmodernités dans les années 50, avec un foisonnement de présences, pas seulement d'ailleurs ces présences noires, ces autres présences, ces autres dates géographiques ont été traitées par le Musée National d'Art Moderne bien le Centre Pompidou. Dans les années 70-80, il y a eu des grandes expositions qui ont été Paris-Paris, Paris-New-York, Paris-Berlin et Paris-Moscou. Et comme vous le voyez à ces titres, voilà, on voit qu'ont été explorées justement des géographies, a été exploré le fait que c'est justement ce cosmopolitisme après-guerre qui a permis aussi l'arrivée d'un certain nombre de modernités artistiques. Or, avec Paris Noir et le service dont je fais partie au musée, qui est le service de la création contemporaine et prospective, est un service qui s'attache normalement aux contemporains, mais aussi dans ce terme de prospectif, à observer ce qui peut-être n'a pas été fait, à être dans des dynamiques de rattrapage. Alors ça concerne par exemple les artistes femmes, hein, qui sont très peu présentes dans les débuts de la chronologie au musée, mais ça concerne effectivement d'autres présences, d'autres passages, d'autres géographies, d'autres parcours d'exil, d'autres circulations à Paris qui ont tout autant contribué à former la modernité artistique parisienne jusqu'à l'art contemporain. Et à ce titre, Paris Noir a un titre involontairement qui voulait englober toutes ces présences. Ça ne veut pas dire que ces histoires sont les mêmes, ça reste des présences singulières et l'exposition les déploie. Mais Paris Noir répond en effet à ces grandes expositions dont le titre contenait Paris et va explorer d'autres diagonales, d'autres circulations, d'autres géographies. Donc on a effectivement des Africains présents dans la capitale qui sont dans ces élaborations vers les indépendances. L'indépendance première, c'est Ghana 1957. Voilà, ça va être un long processus qui se fait dans la douleur, comme j'imagine vous le savez. Et donc ces présences-là sont très importantes à Paris. Vous avez les Africains américains, j'en ai déjà parlé. Vous avez les Caribéens, suite aussi à la départementalisation en 1946. Vous avez les Afro-Brésiliens. Voilà. Et Paris Noir fait vraiment le récit de toutes ces présences et vient appuyer à quel point ces artistes, leurs recherches, leurs quêtes personnelles, leur mixité culturelle, on dirait aujourd'hui, ont contribué à former ces modernités artistiques parisiennes.
Alors, il y a eu certainement des artistes déclencheurs. Je pense à James Baldwin, qui a peut-être certainement conseiller à des artistes de venir à Paris. Je pense à Aimé Césaire, Édouard Glissant. Est-ce que vous savez s'il y a, ou peut-être une maison, la fameuse maison d'édition Présence Africaine, ou quel a été finalement le déclencheur pour que certains artistes au début, dans les après-guerre, viennent finalement à Paris?
Oui, alors il y a des déclencheurs multiples et justement l'exposition, au-delà de son titre, cherche vraiment aussi à raconter que les manières dont on vient à Paris sont différentes, sont des histoires différentes, que Paris n'est pas juste ce phare intellectuel. La capitale attire pour plein de raisons et parfois c'est aussi des raisons, plus dures. C'est aussi des parcours d'exil, c'est aussi parce que c'est la métropole impériale qu'on y vient, parce qu'on a une histoire coloniale avec cette métropole. Les raisons sont différentes, mais effectivement vous avez appuyé cette question des compagnonnages, des présences, c'est très important. La première double salle de l'exposition vraiment raconte ses amitiés. Gérard Secoto, l'artiste, l'affiche de l'exposition, qui est très proche de plusieurs des artistes et des penseurs, surtout de présence africaine. Édouard Glissant, ami avec l'artiste Agustin Cardenas. James Baldwin, très ami avec l'artiste Beaufort de l'année. Voilà, des présences qu'on va retrouver dans cette première salle. Tiberio, un afro-brésilien, très ami avec Secoto, avec qui il voyagera en Afrique. Donc voilà, c'est effectivement ces relations qui sont aussi au cœur de l'exposition, de les raconter, de raconter comment ces amitiés, effectivement, ont suscité aussi des parcours, des présences à Paris. Mais pour revenir sur votre introduction, c'est des présences qui ne sont pas que furtives. C'est vraiment des présences longues à Paris. C'est vraiment des artistes qui ont eu des grands ateliers, qui ont été dans les écoles d'art parisiennes. C'est aussi appuyer cette présence longue, dense, réelle et justement admettre que le fait que ces contributions n'ont pas été patrimonialisées, n'ont pas été soutenues par les galeries, les institutions, est une question qu'on doit adresser aujourd'hui.
Oui, parce que la plupart, vous pouvez peut-être me le confirmer, ne sont pas connus pour l'instant.
Alors, on a quelques artistes qui sont déjà très connus, comme Wilfred Olam, qui ont déjà eu des monographies au Centre Pompidou, comme Hervé Télémaque. Il y en a quelques-uns, mais c'est effectivement des exceptions. Et donc, sur les 154 artistes de l'exposition, c'est effectivement beaucoup de découvertes, beaucoup d'inconnus, y compris du milieu, disons, l'histoire de l'art. Et ça, c'était vraiment très important et le cœur du travail. C'est dire à quel point, effectivement, ces pratiques ont pu aussi être invisibilisées pour un certain nombre de raisons structurelles. Et ensuite, je pense que c'est aussi vraiment un plaisir pour et le grand public et les professionnels de faire aussi toutes ces découvertes. Et pour nous, ça a été vraiment un travail extraordinaire aussi de pouvoir travailler aussi à exhumer un certain nombre de choses et à faire aussi un travail de restauration, un travail patrimonial sur des œuvres et des objets qui sont qui ont aussi ont pu ne pas être considérés et invisibilisés. Ça a vraiment été le cœur du travail ces dernières années.
Alors d'où viennent d'ailleurs toutes les œuvres? Est-ce qu'elles viennent de certaines galeries, collections de plusieurs pays, de collectionneurs.
Alors oui, pour partie, il y a des galeries qui ont prêté des œuvres, il y a des institutions qui ont prêté des œuvres, il y a des collectionneurs privés qui aussi ont un intérêt pour ces scènes, et ils sont un peu nombreux qui ont fait le travail et qui donc aussi nous ont prêté leurs œuvres. Mais globalement, sur la densité d'œuvres, c'est une exposition très dense, il y a plus de 300 œuvres. Sur cette densité, beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces œuvres, et ça c'est un vrai enjeu, hein, encore une fois, sur des questions de patrimoine et de conservation, sont aujourd'hui encore dans les familles ou auprès de personnes, hein, qui en ont pris soin, de décès des artistes, et sont dans des... Voilà, il y a aussi une forme d'urgence, hein, pour un certain nombre d'œuvres, et pour beaucoup d'œuvres, il a parfois été difficile de les retrouver. Dans certains cas, il a été impossible de les retrouver. C'est le cas notamment d'une œuvre de Christian Lattier présentée au Festival mondial des arts nègres de Dakar en 66, qui n'est pas présente dans l'exposition puisqu'on ne l'a pas retrouvée. Voilà, c'est aussi un chemin et un travail d'enquête que d'écrire ces histoires de l'art plus négligées. Et à ce titre, ça se ressent effectivement aussi dans les origines des œuvres.
Oui. On écoute Archie Shepp, Ballad for a Child, et on vous reprend tout de suite.
Écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Nous venons d'entendre Ballad for a Child d'Archie Shepp, et je suis donc toujours en compagnie d'Eva Barois de Cavel, commissaire associée sur la fabuleuse exposition Paris Noir au Centre Pompidou, Musée d'Art Moderne à Paris, exposition qui se termine lundi. Donc, chers auditeurs, vous avez 3 jours pour y aller. On parlait de cette incroyable circulation artistique, hein, d'artistes africains, américains, caribéens. Alors, on vient d'entendre justement Archie Shepp. Alors, le free jazz, finalement, est un peu une continuité, en tout cas, voilà, quelque chose de différent du jazz plus classique.
Oui, Effectivement, alors le jazz est quelque chose de très présent dans Paris Noir. C'est plus qu'un motif, hein, ça court tout au long de l'exposition et c'est effectivement important. C'est important à différents endroits et on a aussi souhaité avoir une vision aussi un peu réaliste hein, de ce que pouvait être cet imaginaire du jazz dans les années 50 à Paris qui souvent est un peu romanticisé. Par exemple, donc l'artiste qui l'affiche de l'exposition et la couverture du catalogue, Gérard Sékoto avec son autoportrait de 1947, quand il est arrivé à Paris, a eu comme petit boulot d'être ouvreur de boîte de jazz. Il était par ailleurs musicien de jazz lui-même. Beaucoup d'artistes de l'exposition sont aussi des musiciens, ont aussi été des musiciens professionnels comme Henri Guédon, mais il y en a d'autres dans l'exposition. Et donc effectivement, ce motif du jazz, on le retrouve tout au long de l'exposition. On lui dédie d'ailleurs même une salle hein, qui s'appelle justement voilà Jazz et Jazz. Et dans cette salle, on va croiser des figures, Toto Bissinthe, Myriam Makeba, la compagnie de danse d'Elvin Allée qui rend hommage à Duke Ellington. Voilà, le jazz est très présent dans le début de l'exposition, mais si on regarde bien, il y est tout du long. Et effectivement, il est donc ce petit boulot, il est ce lieu de travail, en tout cas les boîtes de jazz, il est cette musique que jouent ces artistes, y compris de passion professionnelle, il est cette bande-son hein, aussi d'un peu ce Paris, et il est aussi un motif, beaucoup d'œuvres vont représenter les jazzmen, de photographie aussi, ça vous allez le sentir dans l'exposition. Et enfin, c'est un motif qui nous a aidé à penser aussi la scénographie, on a un très beau texte dans le catalogue, à ce sujet d'un critique d'art américain qui s'appelle Robert O'Malley qui décrit le jazz comme vraiment une métaphore aussi pour penser l'expérience noire faite de rupture, de syncope et la scénographie de l'exposition avec ses cimaises syncopées souhaitait aussi reprendre ce motif.
Oui, alors on disait tout à l'heure 150 artistes noirs ou afro-descendants dans cette exposition Paris Noir. Alors des multitudes d'histoires passionnante, foisonnante. Je pense à ce peintre Iba Ndiaye, sénégalais, décédé d'ailleurs il y a une quinzaine d'années, qui a au départ à 15 ans finalement peint des affiches hein, dans des deux cinémas de sa ville au Sénégal, à Saint-Louis. On est en 43. Il arrive à Paris en 48 dans l'atelier de Zadkine. Donc c'est vraiment voilà, c'est des destinées formidables.
Oui, beaucoup de destinées formidables, beaucoup d'artistes dont il faut écrire aussi des histoires encore mieux et auxquels il faudrait consacrer des expositions monographiques.
Oui, alors Beaufort Delaunay, hein, bien sûr, cet Américain qui a été très proche, je crois, de James Baldwin.
Tout à fait, tout à fait. Une grande et longue amitié qui se joue et se noue à Paris. Amitié d'une vie et... Delaunay a beaucoup représenté James Baldwin aussi. On a plusieurs, portraits Baldwin dans l'exposition.
Fameux portrait. Ed Clarke également est représenté, cet Américain.
Clarke, tout à fait. Ed Clarke. Mm-hmm. Oui, qui était dont on suit. D'ailleurs, on a quatre œuvres d'Ed Clarke dans l'exposition, ce qui nous permet de suivre aussi différemment son parcours, un autoportrait, son arrivée à Paris, le moment où il est aussi très inspiré par Nicolas de Staël. On a une photographie de lui aussi à l'atelier. Il avait sur une des cimaises. Et puis ensuite, on a ces deux œuvres qui sont vraiment emblématiques du moment aussi où il invente hein, vraiment son style dans les années fin des années 50-60 où il est chez Joan Mitchell dans l'atelier de Joan Mitchell à Vétheuil, donc sur les traces aussi des impressionnistes, où il va élaborer deux formats. D'une part, ces shapes canvases, des toiles rondes hein, qui sont comme des projections du paysage dans l'iris projetées sur une toile. Et puis, ce qu'il appelle les big sweeps, les grands balayages, qui sont des toiles qu'il fait à même le sol, vraiment des abstractions gestuelles, couleurs. Et on a une cinquième œuvre de Clarke dans notre deuxième salle abstraction qui est toujours un big sweep beaucoup plus matiéré. Donc, un beau parcours Ed Clarke dans Paris Noir.
Oui, je pense à cette œuvre de Christian Lattier, le Christ en bois,
technique de sculpture à la ficelle, qui vient là aussi reprendre, partir aussi de techniques vernaculaires et les amener vers la modernité, aussi rapport à la figure christique qui est aussi un cours dans Paris Noir avec quelques exemples, mais qui aurait pu être plus présente parce qu'elle est vraiment présente aussi dans la psyché de plusieurs de ses artistes. injustice, dans un rapport à la religion qui a, encore une fois, été un outil d'impérialisme, un outil de colonisation, mais aussi un outil d'émancipation, et puis figure christique qui est souvent aussi parlée, pensée par ces artistes comme un moyen d'évoquer la question de l'esclavage et la question de l'endurance noire également. Oui. Voilà, Christian Lattier qu'on retrouve dans l'exposition avec son bélier dans la section qui s'intitule Paris-Dakar-Lagos.
Au niveau de la scénographie, plusieurs parties sur justement l'évolution hein, de toute cette peinture, de tout cet art, et également au centre. Alors, au centre, cette œuvre, oui. Voilà, que vous avez appelée Édouard Glissant, justement. Que représente-t-elle?
Alors, en fait, au centre, une matrice circulaire qu'on traverse trois fois quand on parcourt l'exposition, qui évoque l'Atlantique noir, hein, qui évoque l'océan, qui évoque cet espace et cette mémoire de l'esclavage, qui est quelque chose qui est très présente, évidemment, dans la psyché de tous ces artistes, malgré leur singularité, et qui est bien sûr fondamentale d'une expérience noire dans la modernité, puis dans le monde contemporain. Et donc, cette matrice, voilà, renvoie à cette histoire de l'esclavage. On la traverse une première fois, elle est dédiée à la pensée du poète et philosophe Édouard Glissant, qui, bien sûr, a pensé cette question de l'esclavage d'une manière passionnante, et cette question des insularités, hein, des territoires qu'on dit aujourd'hui ultramarins d'une façon passionnante, qui a aussi posé des concepts, celui du tout-monde, celui de la relation, qui sont vraiment au cœur de notre réflexion pour Paris Noir. On la traverse une seconde fois, c'est le Glissant plus tardif, hein, Glissant de la sortie du discours entier, hein, qui était la publication de sa thèse, cette somme, hein, cet ouvrage incroyable, massif, qui pense, voilà, encore une fois, toute l'expérience caribéenne de mille façons et d'une façon tellement exhaustive. Et on la traverse une troisième et dernière fois avec une œuvre qui est une commande in situ à l'artiste Valérie Jaune, artiste martiniquaise, mais qui a un parcours qui l'a mené de la Martinique à Paris, puis à Dakar, et elle est entre ces trois géographies, donc c'est aussi une figure vraiment très intéressante de cette raison, et qui a donc réalisé cette œuvre pendant les 15 jours d'installation de l'exposition à nos côtés, qui évoque un œuvre qui de couleur indigo, donc l'indigo qui est et cette peinture végétale et ce textile et cette ce nom qu'on donne à un certain niveau de profondeur marine, et qui évoque vraiment là très clairement cet espace atlantique.
Oui. Et puis alors plusieurs parties hein, dans cette exposition, une sur le surréalisme, voilà, une sur les artistes africains d'ailleurs. Ensuite, hein, qui ont été célébrés en Afrique, hein, je pense par exemple à Paris-Dakar, Lagos.
Lagos, oui.
Retour vers l'Afrique, voilà, l'affirmation de soi. On voit finalement ces 50 ans d'évolution hein, pour arriver à une identité plus forte et même de nouveaux lieux. À Paris, c'est ce que vous pouvez nous
oui,
expliquer.
Oui, alors je ne sais pas si c'est une identité plus forte. C'est des moments différents d'élaboration d'identité. Dans les années 50, la plupart des pays africains sont pas indépendants. Donc voilà, comme on le sait, l'indépendance, ça va être long et se faire de façon extrêmement douloureuse. Donc penser son identité, voilà, c'est aussi pas les mêmes enjeux, les mêmes questions. La France des années 90, oui, c'est encore d'autres enjeux qui sont pas non plus des plus simples. L'exposition se termine hein, d'ailleurs sur cette espèce de aussi pressentiment, rapport à un certain nombre de choses. Les crimes racistes sont évoqués dans le diaporama d'Amadou Gaye avec les images de la marche contre le racisme et pour l'égalité. Donc voilà, tout ça est aussi présent. Les problématiques ne sont pas les mêmes. Dans les années 90, effectivement, on met aussi l'accent sur un certain nombre de lieux qui sont des lieux... Alors, au cours d'exposition, en fait, beaucoup de lieux sont présents, notamment les quelques galeries qui ont soutenu ces artistes, les initiatives, effectivement, aussi sur le territoire africain, les grands festivals oui. panafricains, les lieux importants, voilà. Plein de lieux sont présents, qui ne sont pas que des lieux parisiens. Mais en fin d'exposition, effectivement, on met à l'honneur un certain nombre de lieux, disons, autogérés, on dirait aujourd'hui, enfin pris en charge par des artistes même ou des créateurs, qui dans les années 90 ont présenté cette création noire française. C'est l'association Wilfred Olam, c'est le Centre 57, c'est les frigos, c'est l'hôpital éphémère. Voilà, ce type de lieux.
La galerie du Dragon qui a existé un moment.
Oui, la Galerie du Dragon, justement, plus ancienne. On la croise dès le début de l'exposition, justement, dès le premier passage dans la matrice, puisque c'est le lieu où Édouard Glissant a rencontré Agustín Cárdenas.
Oui. Alors, une question sur le terme négritude. Finalement, oui. Il a été accepté à une période. il était même plutôt, enfin pas revendiqué, mais installé.
Oui, alors la négritude, c'est un concept même philosophique hein, qui est justement produit dans cette génération des processus vers l'indépendance comme un terme, disons, pour retourner le stigma et pour justement s'approprier, se réapproprier aussi culturellement ce qui a pu être dérobé lors du congrès de 56 hein, qui réunissait justement beaucoup d'intellectuels noirs qui sont pour certains devenus ensuite les hommes politiques des nations nouvellement décolonisées sur le continent africain. Quelqu'un comme Depestre disait nous étions remplis d'une densité blanche, nous souhaitions nous remplir d'une densité noire. Donc voilà, la négritude est un mouvement qui a pu paraître obsolète ensuite, mais qui allait vraiment dans cette dynamique, cette direction. Voilà, il a été très revendiqué par quelqu'un comme Senghor, peut-être pour le chantre le plus connu de la négritude, mais aussi par un certain nombre de poètes, d'écrivains. Et voilà, c'est encore une fois vraiment un moyen philosophique de retourner le stigma. Et cette négritude, elle a aussi habité de manière plastique un certain nombre d'œuvres. Vous avez en début d'exposition les œuvres de Ben et Monou qui sont tout à fait dans cette dynamique. Et plus loin, par exemple, l'œuvre de Papaï Bratal, artiste sénégalais, Mwonou, lui, nigérian, qui sont aussi hein, encore vraiment dans cette esthétique dite de la négritude.
Oui. Merci beaucoup, Eva Barois.
Merci
de Cavel.
Merci
je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Hein. Merci beaucoup. On aurait tellement de choses à rajouter. Hein. Donc, exposition Paris Noir, c'est au Centre Pompidou jusqu'à lundi.
Merci beaucoup.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. L'émission prend fin, mais tout d'abord, mes coups de cœur, enfin pour finir cette émission, mes coups de cœur, et vraiment faites-moi confiance, allez-y, vous ne serez pas déçus. Alors demain à Courbevoie, vous avez le Festival des mots libres sur le week-end. Vous aurez demain à 15h la journaliste Anne Chirol. Voilà, qui signe la chronique de toi-même, qui va vous parler justement, alors là moi je vais y aller, elle va parler des sociotypes issus des réseaux sociaux. C'est gratuit, c'est demain au centre événementiel de Courbevoie avec Anne Chirol, journaliste au Monde à 15h. Et ensuite à 16h, eh bien vous aurez des poèmes. Alors vous pouvez participer, c'est de 16h à 18h. Un poète dressera votre portrait en mots et en vers. Toujours le 28 juin à Courbevoie, Pierre Faury, qui viendra, donc c'est, vous savez, c'est la voix montante hein, de l'éloquence, il est tout jeune, il a 23 ans Pierre Faury, il viendra déclamer des poèmes, c'est à 19h30, c'est gratuit, mais il faut réserver. Donc ça c'était mon premier coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur, c'est toujours une exposition, voilà, découvrez ce lieu incroyable dans la grande chapelle Saint-Louis de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. C'est une exposition qui s'appelle Vulnérable. Il y a des œuvres de Dubuffet, mais également des artistes d'art brut et également des installations contemporaines. C'est donc boulevard de l'hôpital hein, dans le 13e et c'est ouvert tous les jours de 9h30 à 18h. Demain samedi, par contre, c'est à 11h. Autre coup de cœur, c'est Flowers, c'est demain à 19h, donc faudra choisir. Hein. Au théâtre La Scala, boulevard de Strasbourg, dans le 10e, c'est à 19h, c'est une star montante de la danse, Édouard Hu. Il a souvent travaillé avec Angeline Prège-Locage. Donc Flowers, c'est trois danseurs, un peu comme des bourgeons qui éclosent pour mieux rayonner grâce à ce qui les entoure. Eh ben, ça va nous faire du bien en ce moment. Hein. Y a beaucoup de plaisir et de liberté dans ce fameux Flowers. Et enfin, à Enghien. Alors, vous avez le Festival Caraïbes. Surtout, ne manquez pas ça. Hein. Donc, c'est demain à 21h, Havana de Primera. Voilà, un dance-floor géant sur des musiques cubaines. Demain à 21h. Voilà. Je vais donc vous laisser et vous retrouverez bien vendredi prochain Marie-Laure pour de nouveaux rendez-vous. Bonne soirée.